Cap Sport, la rediff.
Cap Sport se met en mode Coupe du Monde de football ce soir à l'occasion du match amical de l'équipe de Suisse en Grèce. À 55 jours de son entrée en lice au Mondial russe face au Brésil, plusieurs interrogations entourent la Nati, notamment en ce qui concerne sa charnière centrale et son attaque. L'ex-international suisse Johan Lonfa est avec nous pour tenter d'y voir un peu plus clair. L'ancien entraîneur adjoint de la Nati, Michel Pont, livrera également son point de vue. Et puis en seconde partie d'émission, on évoquera ce qui est sans doute l'une des grosses nouveautés du mondial russe, pour ne pas dire une révolution. La FIFA a voté vendredi dernier la validation définitive de l'utilisation du dispositif d'arbitrage vidéo pour la Coupe du Monde 2018. Un système qui pose cependant encore beaucoup de questions. On verra lesquelles et on tâchera d'y répondre en compagnie de l'ancien arbitre, le vaudois Sébastien Pache. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport, votre rendez-vous sportif de la fin de semaine. Menu foot aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est dans moins de 3 mois. La Nati a 4 matchs amicaux pour se préparer. Le premier est dans moins d'une demi-heure en Grèce, coup d'envoi à 19h. Mais dans cette dernière ligne droite avant le Mondial, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans cette équipe de Suisse, Jérémy Pignard.
Oui Yannick, et vous savez que les sélectionneurs aiment aborder les compétitions internationales avec des certitudes. Et le problème en ce moment, c'est que la Nati, elle en manque de certitudes, pas au niveau des résultats, parce qu'on est tous d'accord pour dire que la campagne de qualification elle a été très bonne, mais dans l'effectif pour la liste des 23, il y a encore plusieurs chantiers ouverts. La défense, puisque les tauliers habituels en charnière centrale ne sont pas au mieux dans leur club actuellement. En attaque, aucun buteur en confiance, beaucoup de méformes, mais on verra aussi ce que peut éventuellement apporter un Dimitri Oberlin qui pourrait fêter sa première sélection. En revanche, au milieu, il y a du choix, ça semble pas être le secteur qui pose le plus de problèmes. Et puis si on a le temps, on parlera peut-être aussi des gardiens, parce qu'il y a une belle concurrence à ce poste-là et donc aussi un choix à faire pour Vladimir Petkovic. Et on va parler de tout ça avec Johan Lonfa, ancien milieu de terrain de la Nati. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Johan Lonfa, d'une manière générale, quand on évoque ces différents chantiers à moins de 3 mois d'une Coupe du Monde, 55 jours à rappeler Yannick, est-ce que ça vous inquiète pour la sérénité d'une préparation qui a encore autant d'incertitudes ?
Non, ça ne m'inquiète pas énormément. Je crois qu'en équipe de Suisse, on a toujours eu des incertitudes. C'est rare, les phases finales de Coupe du Monde ou d'Euro, où on arrivait avec tout le monde qui jouait dans leur club, qui était au top de leur forme. Donc, on est habitué, nous, en Suisse, à avoir pas un contingent pléthorique et puis à devoir conjuguer avec peut-être des joueurs qui jouent un peu moins dans leur club, ce qui n'est pas le lot des grandes nations qui ont que l'embarras du choix. Donc ça on est un peu habitué à ce genre de situation.
Johan, juste avant de poursuivre, je vais vous donner la composition d'équipe du match Grèce-Suisse qui va débuter dans 25 minutes maintenant, parce qu'il y a quelques enseignements à en tirer. Alors, Yann Sommer dans les buts, Lichtsteiner, Rodriguez sur les côtés, Cher, Akanji en défense centrale, et ça c'est déjà une première nouvelle puisque ça veut dire que Djourou sera sur le banc. Milieu à 3 récupérateurs avec Berami, Freuler, Xhaka, et puis 3 attaquants, Mbolo, Dzemaili, Seferovic, donc sans doute un 4-3-3 quand on possède le ballon, qui peut se transformer en un 4-5-1 à la perte du ballon, voir Akanji déjà titulaire, c'est juste pour un match amical comme ça, ou vous pensez que Johan Lonfa, ça peut déjà être un choix en vue du mondial, parce que justement, entre Cher et Djourou, il y a déjà quelques petites méformes, ils ne sont pas au mieux dans leur club.
Alors écoutez, moi je pense que ça peut déjà être un petit enseignement. Je crois que Vladimir Petkovic, c'est pas l'homme qui va faire trop d'essais. Lui, il aime bien avoir ses certitudes, il aime bien composer avec le même effectif, quand bien même les joueurs n'évoluent pas à 100% dans leur club. Lui, il a vraiment des certitudes, il a vraiment son je dirais pas son 11 de base déjà dans la tête, mais en tout cas le cadre élargi de l'équipe, il l'a déjà en tête. Et puis c'est clair que ces 4 matchs de préparation vont quand même servir à faire des choix, des essais. Il faut pas tirer trop d'enseignements de ce premier match amical, mais néanmoins oui, Akanji au poste avec Cher, je pense que c'est une charnière centrale qui a déjà bien fonctionné, donc je tirerai pas trop d'enseignements, mais néanmoins voilà, c'est déjà un premier indice sur la suite des opérations, je dirais.
On va quand même peut-être juste rappeler la situation. Hein. Fabian Cher, c'est le taulier normalement de cette équipe de Suisse. Il a quand même joué 20 matchs depuis le début de la saison avec le Deportivo La Corogne en Espagne. Mais le problème, c'est qu'un nouvel entraîneur est arrivé en cours de saison, Clarence Seedorf, et il a un peu remélangé les cartes et Fabian Cher se retrouve donc remplaçant. Quant à Johan Djourou, il a été blessé de son côté. Il retrouve seulement sa place à Antalyaspor. De cas qui pose donc une question, Johan Lonfa, est-ce qu'il faut impérativement être titulaire dans son club pour être performant en sélection ?
Alors justement, j'ai un peu répondu sur la première partie de mon intervention, je ne pense pas. Je ne pense pas. En Suisse, de nouveau, on n'a pas
On ne peut pas se le permettre.
On peut pas se permettre. On a quand même des joueurs qui ont déjà évolué en équipe de Suisse, qui ont donné satisfaction. Et puis, oui, c'est clair que dans l'idéal, il faudrait jouer pour leur temps de jeu. Il faudrait jouer dans des clubs qui évoluent dans le haut du championnat pour être en confiance, pour gagner des matchs. Donc ça, c'est le monde idéal, je dirais. Mais en Suisse, de nouveau, on n'a peut-être pas forcément cette situation idéale qui se présente. Et puis, il faut faire avec. Il faut que les joueurs, même si Fabien Schär a moins de temps de jeu, il faut qu'il s'entraîne bien. Il faut qu'il ait confiance avec l'équipe de Suisse. Et puis, voilà, le message de Petkovic est assez fort là dans la composition de l'équipe. C'est-à-dire, je mets titulaire, même si tu joues moins, je sais que tu as apporté satisfaction quand tu as évolué en dans l'équipe. Donc pour moi, voilà, c'est un gage de confiance.
On a appelé Michel Pons cet après-midi pour lui poser aussi la question. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous en direct parce qu'il est sollicité par la télévision, vous le savez. Mais Michel Pons, sur cette histoire de défenseur, il pense aussi que c'est quand même mieux d'être titulaire dans son club, mais ça a toujours été ça, un problème de la Nati. On l'écoute.
C'est clair que le mieux et l'idéal, c'est que ce soit titulaire, hein, comme le sont les titulaires des grandes équipes. Hitzfeld s'est cassé également les dents au début de son travail avec l'équipe nationale en misant sur les joueurs qui jouent dans leur club. Maintenant, j'ai envie de dire, si les joueurs ne jouent pas vraiment titulaire à 100%, mais ne sont pas blessés ou n'ont pas été blessés, c'est un moindre mal. Maintenant, on n'en est pas là. Jourou recommence à jouer, par exemple, parce qu'Akanji joue, Cher a montré, malgré son peu de temps de jeu dans les deux derniers matchs de qualification et barrage, qu'il était au niveau. Ce qui m'inquiète un petit peu, effectivement, c'est sur une longueur de tournoi de la hauteur du Coupe du Monde, c'est vrai.
Johan Lonfa, on l'a entendu, hein, Michel Pons qui semble, mine de rien, assez optimiste par rapport à cette situation. On a l'impression que vous partagez quelque peu cet optimisme, en tout cas pour la défense.
Oui, vous voyez, je connaissais pas l'intervention de Michel Pons, mais on se rejoint un petit peu dans l'analyse. De nouveau, l'idéal, c'est de jouer, c'est de bien jouer, c'est d'être en forme. Malheureusement, voilà, on a moins de ressources que d'autres pays à certains postes. Quoique le poste de derrière central, maintenant, je veux dire, il a donné satisfaction, hein, dans la phase de qualification. Il y a quand même eu des bonnes choses qui, même dans les matchs barrages, il y a eu une certaine solidité qui s'est détachée, si on accepte peut-être le match retour au Portugal. Quoique c'est peut-être pas là où on a craqué le plus. De nouveau, on parlera après, je pense, du gros point d'interrogation qui est le chantier le plus important de l'équipe de Suisse, c'est l'attaque.
Hein. Bah justement,
c'est un autre problème. Au niveau défensif, moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense quand même que, effectivement, les joueurs sauront se montrer à la hauteur, même s'ils ont un petit peu moins de temps de jeu sur ce printemps.
Je propose qu'on en parle dès maintenant, hein, de l'attaque Johan Lonfa. C'est pas la grande forme effectivement chez les avant-centres. On va vite fait peindre le tableau. Seferovic, c'est 9 titularisations seulement à Benfica et puis un rendement qui est quand même assez critiqué. Memedi s'est blessé, pas sûr qu'il soit remis à temps parce qu'il a dû subir une opération. Mbolo, il en est seulement à 6 titularisations avec Schalke 04, mais il est en train de revenir et semble-t-il de bien revenir. Il y a Dermić qui est sur le retour, mais là encore, il revient d'une longue blessure. Est-ce que ce sera suffisant? C'est vraiment un secteur aussi qui avait posé problème au dernier Euro, on s'en souvient. Est-ce que c'est vraiment problématique, Johan Lonfa, surtout de ne pas avoir de buteur en confiance?
Oui, j'ai envie de dire oui. Dans une équipe, c'est toujours bien d'avoir un fer de lance devant, un gars sur qui on peut compter à tout moment. Donc là, vraiment, l'aspect que je disais pour les défenseurs, c'était un peu moins important. L'aspect d'être en forme au bon moment est vraiment important. On a eu connu un Seferovic assez prolifique, même avec l'équipe de Suisse, assez efficace. C'est vrai qu'on l'a vu aussi en manque de confiance un peu sur la dernière partie de la phase de poule. Et donc là, c'est vraiment important qu'il retrouve confiance. Et puis qu'on ait un serial buteur. Après, l'équipe de Suisse, elle a toujours été un peu dans ce style quand même, avec des milieux offensifs qui peuvent marquer, qui plongent dans les espaces, que ce soit Shaqiri ou Memedi, c'est pas vraiment forcément des attaquants, mais ils peuvent marquer. Donc le danger, il peut venir aussi d'un peu partout, hein, contrairement à peut-être à des équipes où qui évoluent avec deux attaquants nominaux et qui marque le 70 ou le 80% des buts. Ce n'est pas le cas de l'équipe de Suisse. Néanmoins, voilà, des joueurs qui jouent peu. Je suis vraiment content que Brelle Mbolo, maintenant, après sa grave blessure, arrive en forme et aligne les matchs de titulaire. Je crois que sur les 6 derniers matchs, il était titulaire à quatre reprises avec Schalke nous le firent. Donc on compte beaucoup sur lui parce qu'il amène de la puissance, il amène un petit peu plus de choses que le style peut-être un peu plus stéréotypé de Seferovic. Donc voilà, je pense que j'espère vraiment que l'état de forme, que ce soit Dermitz, surtout Seferovic, mais aussi que Brelle Mbolo confirme. Son printemps, ça va être vraiment intéressant de voir les performances de ces joueurs-là. Ouais.
Et juste parenthèse, on oublie parfois aussi Gavranovic qui fait une très bonne saison aussi du côté de la Croatie, du côté du Dynamo Zagreb. Il en est à une dizaine de buts en championnat. Il a marqué 3 buts en phase qualificative de la Ligue des Champions, 3 buts en Ligue Europa. C'est pas mal. Hein,
c'est pas mal. Non, c'est clair. Je n'oublie personne. Je parlais des trois peut-être prétendants principaux pour le poste d'attaquant, mais c'est vrai que Gavranovic, voilà, et lui, il est en confiance, même s'il joue entre guillemets que en Croatie, c'est quand même un joueur qui est en confiance. Et vraiment, pour un attaquant, c'est très important la confiance, l'état de forme du moment. Et on aura besoin vraiment de tout le monde, parce que ça peut représenter aussi un joli joker, ce Gavranovic, au même titre que Berlin.
Alors c'est un véritable casse-tête, on l'a bien compris, l'attaque pour l'équipe de Suisse, un casse-tête que devra résoudre Vladimir Petkovic, un casse-tête qu'a peut-être bien connu aussi d'une certaine manière Michel Pont, ancien entraîneur adjoint de la Nati. Écoutez justement son avis sur les attaquants de l'équipe de Suisse de football.
Le problème est plus aigu, je vous l'accorde. Maintenant, il y a quand même des points qui sont très intéressants où Gavranovic fait son retour en grâce, où il aligne une très bonne performance en Croatie. Mbolo a retrouvé toutes ses capacités. Il lui manque un petit peu du temps de jeu, mais avec sa puissance naturelle et l'envie qu'il va avoir de bouffer du gazon avec l'équipe suisse, je pense que ça va être une alternative formidable. Oberlin, comme garçon qui peut venir déranger en cours de match, va être une alternative extrêmement intéressante. On a encore un garçon comme Stéphane en Allemagne capable de venir aussi brouiller les cartes.
Johan Lonfa, Dimitri Oberlin, vous y croyez, vous? Il a été performant sur certains matchs, il s'est vraiment mis en valeur avec le FC Bâle, notamment en Ligue des Champions, mais sur d'autres matchs, il a quand même montré quelques lacunes techniques qui pourraient être rédhibitoires au haut niveau lors d'une Coupe du Monde.
Écoutez, oui, je suis un peu plus pondéré, je dirais, sur Berlin, effectivement, parce qu'il avait fait une entrée fracassante, lors de notamment du match Bâle Benfica, 5-0 à la maison. Donc là, c'était vraiment la révélation, exactement. Et puis on a tout de suite parlé, il faut qu'il aille en équipe de Suisse, il faut qu'il soit titulaire en équipe de Suisse. Attention, donc moi je dis, voilà, il faut mettre les choses dans leur contexte. Effectivement, il a fait des très très bonnes performances, mais beaucoup plus volatiles, je dirais. Hein. Ces performances manquent encore. Il manque encore la
de justesse
pour Oberlin, mais de nouveau des qualités qu'on n'avait pas l'habitude de voir, la vitesse. Ça, c'est des choses vraiment toujours très intéressantes. Et puis Michel Pont le disait, moi je le vois vraiment aussi peut-être plus dans le rôle d'apporter quelque chose ou de dynamiter une défense en cours de match ou sur des contres et être performant. Je vois plutôt dans ce rôle-là, en tout cas dans un premier temps. Puis après, il est encore jeune, il a tout le temps de se révéler et de se montrer plus constant pour, pourquoi pas, postuler à une place de titulaire en équipe de Suisse.
Mais c'est vrai que quand vous faites rentrer un Oberlin peut-être à la 70e, quand les défenses sont déjà un petit peu usées, il a une telle pointe de vitesse que pourquoi pas, ça peut de temps en temps effectivement créer des solutions et permettre de faire le trou.
Et voilà. Ces caractéristiques-là, on n'avait pas vraiment de joueurs. Hein, j'ai pas de souvenir dans les, je sais pas moi, 10-15 dernières années, dans le poste d'attaquant avec de la vitesse comme ça. Hein, Frey, Streller,
c'était des purs neufs, quoi.
Je pense à personne, hein, je veux dire. Mais oui, peut-être un Türkilmaz à l'époque qui perforait comme ça les défenses. On avait plus des joueurs de finition qui jouaient avec d'autres qualités.
Johan Lonfa, vous restez avec nous. On va parler d'arbitrage vidéo dans un instant. Mais juste avant ça, on va faire un petit détour par la Formule 1 parce qu'il y a la saison qui reprend dimanche.
Cap Sport.
Une saison qu'on pourrait résumer par non mais allô quoi. Et oui, il y a pas mal d'observateurs de la Formule 1 qui ont dû ressortir la célèbre phrase de Nabila pour évoquer la nouvelle saison qui démarre, le Grand Prix de la saison, le premier, hein, c'est dimanche en Australie, avec ce fameux halo, nouveau système de protection pour la tête des pilotes. C'est la principale nouveauté de cette saison 2018-2019. Un changement, mais qui n'a pas vraiment plu à François Comte, notre spécialiste F1, qui nous présente la saison à sa manière.
Les ingénieurs se sont cassés la tête pour protéger celle des pilotes, mais le résultat n'est pas vraiment une réussite. Le halo se présente sous la forme d'une barre au-dessus du cockpit, un appareil qui, outre son aspect totalement inesthétique, dénature l'essence même de la F1, celle du risque. Améliorer la sécurité, d'accord, mais pas au point d'aseptiser un sport dont le danger, certes maîtrisé, représente une des composantes. Personne ne souhaite assister à un drame, mais la Formule 1 se caractérise aussi par le face-à-face entre un pilote et son destin. Pas sûr par ailleurs que le halo puisse éviter une issue tragique comme celle de l'accident de Jules Bianchi en 2014. Pour le reste, pas de surprise, le grand favori de la saison s'appelle Lewis Hamilton. Le Britannique vise un 5e titre mondial pour rejoindre le mythique Juan Manuel Fangio dans l'histoire. Lewis Hamilton devrait à nouveau pouvoir compter sur la meilleure voiture du plateau. Mercedes domine la Formule 1 depuis plusieurs années, une hégémonie que seule Ferrari pourrait remettre en cause. La Scuderia était parvenue à rivaliser avec Mercedes dans la première moitié de la saison dernière avant de courber les chines par manque de fiabilité. Reste donc à savoir si Ferrari a réussi à régler le problème, mais rien n'est moins sûr. Un petit clin d'œil pour terminer. Adieu les Grid Girls en F1. Le propriétaire des droits TV, Liberty Media, a décidé de se passer des jolies filles qui tenaient le numéro de course des pilotes sur la grille de départ. C'est dire si les pilotes auront intérêt à assurer le spectacle.
Cap Sport.
Et retour au football. La FIFA a définitivement validé vendredi dernier l'utilisation de l'arbitrage vidéo pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sera une première pour une grande compétition internationale. La vidéo qui pourrait être utilisée dans 4 cas précis, Jérémy.
Oui, pour valider ou non un but, c'est-à-dire franchissement de la ligne de but, s'il y a eu un hors-jeu avant, s'il y a eu une faute, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action qui peut valoir pénalty, donc là typiquement la faute, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, est-ce qu'il y a main volontaire, involontaire dans de nombreux cas, et puis vérifier l'identité du joueur sanctionné, ça peut être utile. D'ailleurs, je crois que notre invité, il en sait quelque chose, parce que j'ai lu comme quoi il avait eu à un moment une confusion sur des numéros de joueurs. C'est Sébastien Pache, l'ancien arbitre de Super League, bonsoir.
Bonsoir.
C'était un match à Chiasso, hein, il me semble. Un 11 et un 17 qui étaient presque écrits pareil.
Vous êtes parfaitement bien informé. Effectivement, c'était ça.
Désolé de vous accueillir sur cette, peut-être ce mauvais souvenir.
Il n'y a aucun problème.
Comme quoi, peut-être, ça va être utile, justement, la vidéo. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pour les pros vidéo, le grand argument, c'est que c'est l'arrivée de la justice dans le football. Mais j'ai presque envie de vous dire, Sébastien Pache, ça restera toujours l'interprétation d'un homme, d'un arbitre, la vidéo. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord en regardant une vidéo.
Non, absolument. D'ailleurs, la FIFA le dit assez bien. Il souhaite utiliser la vidéo uniquement dans un cas précis, lorsqu'il y a des erreurs claires qui influencent un match. Et non pas lorsqu'il y a discussion sur des scènes. C'est-à-dire, je prends toujours l'exemple de la zone grise. Donc c'est ou noir ou blanc ou gris. Et quand c'est gris, il y aura toujours discussion. Donc il ne cherche pas à avoir une deuxième discussion liée à la vidéo, mais uniquement à corriger les erreurs, je dirais, manifestes qui peuvent se produire sur le terrain.
On a quand même plusieurs exemples qui montrent que la vidéo ne résout pas forcément tous les désaccords. Parfois sur une action, une faute de main, vous mettez 10 arbitres devant la vidéo et ils ne seront pas forcément tous d'accord. C'est sujet à interprétation. Sébastien Pache, dans ce genre de cas, comment on va faire ?
Bien, c'est exactement ce que je vous disais. L'interprétation restera l'interprétation, soit ça sera l'interprétation de l'arbitre principal sur le terrain et non pas l'interprétation des gens qui regarderont la vidéo. Et d'un autre côté, par contre, la vidéo corrigera les erreurs flagrantes qu'on a pu voir au fil du temps, au fil des années, dans les différentes compétitions majeures que l'on regarde à la télévision, Coupe du Monde ou autre, Champions League. Voilà, donc c'est vraiment pour corriger vraiment des grosses, grosses erreurs et non pas justement pour interpréter des scènes qui peuvent être effectivement de grands et longs débats. Et l'arbitre restera celui qui décidera en finale.
Yoann Lonfa, quand vous jouiez, la vidéo, on en parlait, mais elle n'était pas encore là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez ça de quel œil, vous ? Pour vous, c'est la justice ou alors vous êtes plus sceptique ?
je suis un peu mitigé, je vais faire une réponse de Normand là, mais en fait, c'est assez délicat. À la fois, c'est bien, il y a la nouvelle technologie, je veux dire, on vit dans un monde qui évolue technologiquement parlant. Et moi, quand je jouais, il n'y avait déjà pas de Natel au début, bon, ben maintenant, il y a tout le monde qui a un portable, des tablettes, etc. Donc, si ça amène un plus dans des cas bien précis, de, comme l'a dit, très bien dit Sébastien Pache, dans des cas de décisions très importantes qui font basculer un match, je veux dire, en quart de finale, demi-finale de Coupe du Monde, si on ne sait pas si le ballon a tapé derrière la ligne ou pas, et qu'on peut faire appel à la vidéo pour cela, pour cette, quand même cette justice qui ferait basculer une équipe dans l'élimination ou pas, je pense que c'est quand même important. Maintenant, j'ai un peu peur que voilà que le jeu soit un peu trop haché, qu'on arrête le match à tout bout de champ, et puis qu'on aille voir la vidéo, puis qu'on reprenne, et puis qu'on soit même pas d'accord. Il y a aussi cette question de fluidité du jeu qui pose un souci. Donc, il faudrait peut-être limiter vraiment au minimum quand même les vidéos dans des cas bien précis. Bon, là, j'espère que ça va être bien interprété et justement utilisé vraiment à bon escient. Voilà.
Justement, j'aimerais entendre Sébastien Pache là-dessus, parce que moi, par exemple, j'ai regardé un des matchs test, c'était en France, de la vidéo, c'était un Rennes-Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de la Ligue, c'était en début d'année, là, en janvier. Il y a eu 3 recours à la vidéo, et en fait, sur les buts, notamment, savoir si le but était validé ou pas, j'ai vécu les émotions de manière différée, et franchement, je trouve ça infernal.
Ah, c'est clairement, c'est un petit peu l'autre côté du système. Ça veut dire, d'un côté, vous avez peut-être plus de justice, de l'autre côté, vous perdez de l'émotion. Et le but, c'est de trouver une sorte de balance qui permet à la fois de se retrouver au niveau de la justice et d'un autre côté, sans trop perdre d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut que la décision soit rendue relativement rapidement. Et ça, c'est toute la difficulté du système. C'est-à-dire que les gens vont devoir apprendre à accepter que la décision ne soit pas instantanée, mais qu'elle dure un certain nombre de secondes. Et bien sûr, la FIFA, les arbitres qui sont formés pour ça vont devoir, je dirais, faire en sorte de limiter ce temps pour cette prise de décision.
Yoann Lonfa, vous avez l'impression que ça dénature un peu le football aussi de devoir attendre. Vous vous imaginez le 1er décembre 2004, vous ne pouvez pas exulter sur votre but au Sporting Portugal avec Sochaux parce qu'il faut recourir à l'arbitrage vidéo.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut vraiment que l'aspect humain reste. Ma foi, j'ai envie de dire que l'arbitre est bien sûr un homme et peut faire des erreurs, même avec la vidéo. Il peut encore mal interpréter la vidéo ou bien interpréter la vidéo. Donc quelque part, il y a toujours quand même un peu l'humain derrière. Le joueur fait des erreurs aussi. Donc je suis un peu mitigé. Je trouve que la vidéo doit vraiment être utilisée dans des situations très très précises et le moins possible, d'après moi.
Une remarque sur ce que je vais dire en un mot, messieurs, parce qu'on approche vraiment de la fin. Je vais être un peu provocateur, mais finalement, j'ai l'impression aussi que les injustices, elles font aussi partie de nos plus grands souvenirs de football. La main de Maradona, Batiston Schumacher, France-Allemagne, Séville 82, tout ça, on se dit aujourd'hui, avec la vidéo, ça aurait peut-être changé, mais finalement, ça fait partie de nos grands souvenirs de football.
Je ne sais pas qui veut répondre, je laisserai peut-être. Ouais, pardon, je vous en prie.
Non, je suis assez d'accord avec ça. Après, allez dire aux Irlandais, quand ils se sont fait éliminer par la main de Thierry Henry, que finalement, ça fait partie de leurs meilleurs souvenirs. Je pense que voilà, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde à cause de ça. Je pense quand même, ouais, la justice est quand même bien, et si on peut, par la technologie, amener un peu plus de justice, oui, mais de nouveau, à petite dose, et puis oui, l'erreur est humaine, et il y aura toujours des erreurs sur les terrains de foot, même en 2030, je pense.
Sébastien Pache, un dernier mot pour conclure, vous y croyez à cette vidéo au Mondial, ou on risque quand même d'assister à quelques petites situations, ça sera un vrai test?
Vous pouvez être 100% sûr que vous aurez des situations litigieuses. C'est archi sûr. Un, parce que c'est des arbitres qui viennent du monde entier. Il y a un problème de communication qui peut apparaître entre les différents arbitres. Il y a un problème d'interprétation. Donc tout peut être sujet. Et je vous rappelle quand même que c'est en phase de test depuis 2 ans. Et dès lors, vous n'avez pas encore tout à fait le recul nécessaire à ce que cette technologie soit appliquée de manière vraiment adéquate.
Bon, on verra ça. En tout cas, messieurs, merci beaucoup, Sébastien Pache et Yoann Lonfa, d'avoir été avec nous ce soir.
C'est un plaisir. Merci.
Très belle soirée, très bon week-end. C'est ainsi que l'on conclut cette émission. Merci beaucoup d'avoir écouté Cap Sport. Merci, Jérémy.
Eh ben merci, on va se mettre devant Grèce-Suisse et puis à bientôt.
Très bon week-end.
Cap Sport.
La Rediff.